Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Boris Cyrulnik, bonjour.
Bonjour, Madame Chouchana.
C'est un grand bonheur, un grand honneur de vous avoir pour parler de votre dernier livre paru aux éditions Odile Jacob, intitulé « Au saccage des petits bonheurs ». C'est un livre absolument éblouissant, il y a tellement de connaissances, on revient, on savoure et on n'a pas fini d'apprendre. C'est vraiment une mine d'explications précieuses. Alors, vous présentez, est-ce nécessaire? Je le fais quand même. Vous êtes neuropsychiatre, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, professeur associé à l'Université de Mons en Belgique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, tous best-seller en librairie, par exemple « Sauve-toi, la vie t'appelle »,« La nuit, j'écrirai des soleils »,« Des âmes et des saisons »,« Le laboureur et les mangeurs de vent »,« Quand on tombe amoureux, on se relève attaché », ça c'est le dernier livre que nous ayons présenté ensemble, et aujourd'hui c'est « Au saccage des petits bonheurs ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre, s'il vous plaît, Boris Cyrulnik?
Alors, je me suis demandé pourquoi, depuis quelques décennies, on avait tant de mal à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est crispé, on se fâche facilement. La haine apparaît dans les discours publics. Donc, je me suis dit, c'est pas normal, parce qu'il y a des pays bien plus pauvres que la France, où il fait bon vivre. Qu'est-ce qui se passe en France? Alors, j'ai proposé une réflexion sur la civilisation et sur les cycles alternés de civilisation, décivilisation, recivilisation, décivilisation. Et ce processus ondulant existe depuis nos grands-pères et nos grands-mères à tous, monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans. Donc c'est un processus normal, et là il semble bien qu'on soit au creux de la vague, donc c'est plein d'espoir, parce qu'on devrait être obligé de remonter sur la vague.
Alors, lorsque l'on parle de civilisation, en miroir, il y a le mot « culture ». Quel hiatus mettez-vous entre culture et civilisation ?
Eh bien, la culture, c'est l'ensemble des lois, c'est l'ensemble d'urbanisme, c'est les critères objectifs. Alors que la civilisation, c'est une entente comme la parole, c'est totalement arbitraire. On se met d'accord pour vivre ensemble de cette manière, pour s'inviter à dîner, pour être les rituels de politesse, ne pas mettre les pieds sur la banquette. On n'appelle pas la police quand un jeune met les pieds sur la banquette en face. On n'appelle pas la police, mais c'est crispant. Alors parfois, ce sont des rituels arbitraires qui ne sont plus respectés, et parfois cette décivilisation provoque des choses beaucoup plus graves comme la solitude, les augmentations d'agressions sexuelles et les augmentations stupéfiantes d'inceste.
Alors, pourrait-on vivre sans civilisation ? Un enfant sauvage, privé des relations humaines, n'a aucune chance de devenir humain. Quel est le devenir d'un humain sans ce cocon, sans ces relations humaines autour de lui?
Eh bien, il ne peut pas se civiliser, il ne peut même pas apprendre à parler, il ne peut pas apprendre les rituels, il est réduit à sa portion biologique. Alors, on appelle ça un enfant sauvage. Le mot n'est pas adapté parce que les animaux sauvages sont bien plus civilisés. Ils ont des rituels, ils se partagent, ils se protègent, ils s'occupent des petits, ils s'organisent de manière presque sociale, ils inventent des rituels et des techniques de cuisine, donc c'est où les oiseaux font des nids, les singes lavent les pattes patate douce, donc le mot sauvage n'est pas adapté. Mais il y a un enfant sans autre être humain, ça existe, c'est les enfants abandonnés, et on voit que ces enfants abandonnés non seulement n'apprennent pas à parler, mais on voit qu'il y a une atrophie cérébrale localisée qui est toujours la même, très facile à voir en neuroimagerie, une atrophie des deux lobes préfrontaux et socle neurologique de l'anticipation, et une atrophie des deux systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire. C'est-à-dire que l'altération cérébrale est due à, non pas à une maladie, mais à un appauvrissement du milieu. Donc on peut agir sur le milieu qui provoque cette altération cérébrale, et si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une défaillance politique et éducative.
Alors, dans les sociétés en guerre, par exemple, et aussi dans nos sociétés désorganisées par le survoltage, le stress, les déchirures affectives familiales modernes, les familles défaites, recomposées, etc., les enfants ont du mal à acquérir des comportements civilisés, des conventions qui sont en fait arbitraires, mais qui facilitent la vie. Quel est le recours? Que peut-on faire pour corriger cela? Donc nous avons, c'est ce que nous vivons actuellement, la langue est même transformée, les prononciations des jeunes sont différentes, des mots avalés, des contractions, des termes techniques. Donc comment faire, par exemple, dans cet état de société que nous vivons, que faire alors?
Alors voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que avant il y avait une stabilité étouffante, quand le divorce était interdit, la religion chrétienne a interdit le divorce pendant très longtemps, les deux parents qui se rendaient très malheureux, eh bien, ça ne rendait pas les enfants heureux. Donc ça a été un triste progrès d'autoriser le divorce, mais ça a été un progrès. Maintenant, on est passé dans l'excès contraire. Comment un enfant peut-il apprendre à parler quand il y a une rupture tous les 6 mois? Comment un enfant peut-il apprendre des rituels de politesse quand il change de foyer parental tous les 6 mois? Il y a actuellement des enfants qui ont 2, 3, 4 beaux-pères. Il m'est même arrivé d'avoir à accompagner un enfant qui avait 5 beaux-pères. Est-ce que le 5e beau-père et ses 20% de pères interdits sexuellement ou 80% d'hommes autorisés sexuellement? Vous voyez que la structure de parenté disparaît et que donc il y a une confusion dans l'esprit des enfants qui ont du mal à apprendre les conventions arbitraires de vivre ensemble. Donc ils ne l'apprennent plus et se mettent devant des écrans. Les écrans ont un pouvoir destructeur encore pire que ce qu'on croyait. Donc les enfants qui n'ont jamais été autant protégés qu'aujourd'hui n'ont jamais été autant isolés et détruits qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que aujourd'hui, où les enfants n'ont jamais été aussi peu battus, ils n'ont jamais été autant anxieux. Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui, en Occident, n'ont jamais autant été respectées en Occident, et elles n'ont jamais été autant anxieuses et suicidaires qu'aujourd'hui en Occident. Donc c'est un résultat paradoxal, c'est que ces progrès-là isolent affectivement et provoquent des troubles de décivilisation.
Alors, le lien premier entre les humains, c'est le langage. Je ne dis pas la langue, le langage, il y a le langage corporel, il y a le pré-langage. Donc, comment se constitue le langage chez l'enfant? Déjà, donc, le langage qui est variable selon les régions, la géographie, le pays, de la langue maternelle que parlait la maman, que parlait l'entourage de l'enfant. Donc comment se constitue le langage chez l'enfant?
Alors, il faut distinguer la langue maternelle mm-hmm. et le langage. Mm-hmm. Les animaux ont un langage. Ils ont des comportements, des cris différents qui veulent dire, mais ils ne parlent pas, donc ça ne dit pas, ça veut dire. Un goéland a une quarantaine de cris différents associés à une quarantaine de postures différentes, donc c'est une véritable grammaire comportementale. Les singes, les chiens, les mammifères supérieurs ont un langage préverbal, c'est-à-dire qu'une grammaire comportementale que nous, on arrive à comprendre, et entre les animaux, ils se comprennent encore mieux, mais nous, on apprend facilement à comprendre ce langage préverbal. Et ce langage préverbal existe chez nos enfants, puisque la parole, la langue maternelle, ne s'imprègne dans le cerveau de l'enfant qu'au cours de la troisième année. Aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Et pourtant, beaucoup d'enfants, même des prématurés, comprennent avant la parole, ils comprennent les mimiques faciales, ils comprennent les sonorités, ils comprennent les postures, ils comprennent beaucoup de choses avant la parole. Mais bien sûr, la parole apparaît au cours de la troisième année, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau socio-culturel des parents, la langue maternelle apparaît au cours de la troisième année. Mais si la langue maternelle, si la mère est entourée de celui que de mon temps on appelait un mari, maintenant on peut l'appeler un conjoint, on peut l'appeler une grand-mère, on peut l'appeler une autre femme, puisque maintenant les femmes peuvent se marier, les hommes aussi, mais ils ont du mal à avoir des enfants. Donc ça veut dire que si le milieu, à cette fois-ci, langagier avec des mots, est riche, l'enfant va rentrer en maternelle avec un stock de 1000 à 1500 mots. Alors que si le milieu est pauvre, parce que les parents sont malheureux, parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la précarité sociale, parce qu'il y a eu un malheur de la vie, l'entourage, la niche sensorielle de l'enfant est pauvre, et l'enfant sain va rentrer en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 500 mots, devinez lesquels vont devenir bons élèves. Et on voit que les enfants qui rentrent en maternelle avec un petit stock de mots sont humiliés de voir leurs camarades de classe jouer à apprendre et ils apprennent la haine de l'école. Alors que les enfants n'ont jamais eu autant de confort. Maintenant, jusqu'à la fin du 19e siècle, un enfant sur deux mourait avant la fin de la première année. Maintenant, c'est une tragédie qui existe encore, mais beaucoup plus rare. Le confort a beaucoup augmenté, mais quand il y a un appauvrissement langagier autour de l'enfant, parce qu'il n'y a pas de père, parce qu'il y a une niche sensorielle appauvrie, parce que la mère est constamment au sprint, débordée, en dépression, d'épuisement, le milieu est appauvri et l'enfant apprend peu à parler alors que les conditions de confort sont parfois très bonnes, mais les conditions affectives sont donc mauvaises et l'enfant entre en maternelle humilié, honteux et il apprend à détester l'école et il n'y a jamais eu autant de phobies scolaires qu'aujourd'hui alors que les enfants n'ont jamais été élevés dans des conditions aussi protectrices.
Alors, au départ, on remarque lorsque les jeunes, les enfants parlent, il s'agit d'une langue prononcée différemment du statut par exemple, du français traditionnel. Les mots sont avalés, il y a des mots différents que nous ne connaissons pas qui ont été stimulés par les écrits sur les téléphone portable, donc il y a des contractions, il y a des mots étrangers, des mots techniques. La langue semble être un bouillon de culture en ébullition et ça creuse un fossé entre les générations. Par exemple, j'ai l'expérience d'une jeune fille tout à fait bien élevée, de bon milieu, etc., qui passe son oral et le professeur lui dit « Mais je ne comprends pas ce que tu dis, mais articule. » Mais la fille parlait normalement, comme lorsqu'elle parle avec sa famille, avec ses amis, etc. La langue devient une sorte de langue étrangère entre les générations. Les personnes plus âgées ne comprennent plus ces jeunes qui avalent tout.
Tout à fait. Alors là, il y a deux choses. La langue est un organisme vivant qui évolue tout le temps. C'est-à-dire que la langue qu'on parlait au Moyen-Âge n'est plus du tout la langue qu'on parle aujourd'hui. Les mots passent leur temps à évoluer, à changer de sens. Mais là, ce que vous dites, c'est que c'est l'articulation, l'énonciation. Mmh. Alors l'énoncé est complètement bouleversé et l'énonciation est altérée parce qu'il n'y a plus de relation. Alors, on voit effectivement les jeunes face aux écrans ou seuls dans la solitude n'apprennent plus à articuler. Alors, et que la langue évolue, c'est inévitable, c'est comme ça depuis que les êtres humains parlent. Il y a donc toujours eu des problèmes entre les générations. Mais là, maintenant, c'est pas un problème, c'est une incompréhension majeure, mm-hmm. parce qu'on comprend, on n'entend plus et on ne comprend plus leurs mots. Parce qu'ils restent entre eux, il n'y a plus de groupe social structuré avec des bébés, des jeunes, des vieux. Maintenant, on fait des clans, des clans de maternelle, l'école joue un rôle de clan. Les réseaux aggravent le processus, les enfants, les jeunes restent entre eux, et là, comme vous l'avez dit, apparaît une néo-langue que les adultes ne peuvent plus comprendre. L'énonciation est complètement altérée, parce qu'il y a de moins en moins d'altérité, l'empathie est diminuée, un jeune qui parle à toute allure ne se met plus à la place de l'autre, et l'autre ne peut plus le comprendre. Donc là, ça confirme ce que je proposais tout à l'heure, quand il y a une dilution des liens, on ne comprend plus la langue maternelle, parce que la fonction des mots est une fonction affective, bien plus qu'informative, et quand l'affectivité se dilue, on ne se comprend plus.
Alors, comment corriger ça? Que peut-on faire lorsque, par exemple, un jeune dit « mais je ne sais pas, comment parler, que, faut-il donner des leçons de phonétique ?» Que faut-il faire pour donner aux jeunes une possibilité, surtout dans les examens, de se bien faire comprendre?
Eh bien, il faut faire comme les Finlandais, comme beaucoup d'autres cultures. Il faut faire comme les mammifères marins. Les mères dauphins ont 5000 clics. Ce n'est pas des mots, c'est un corps, c'est une sorte de morse. Ce ne sont pas des mots. Et bien, nous, on a 1300 phonèmes. Et quand on parle une langue construite, on a 110 phonèmes. Et les dauphins ont 5000 clics. Donc ils parlent en morse, si on peut dire, mais surtout on voit que les mères ont un baby talk. Les mères s'adressent à leurs petits en exagérant les clics et en ralentissant les clics. Mm-hmm. Je crois que donc les mères mammifères marins nous donnent une leçon. Il faut faire comme l'ont fait les Finlandais, ce que j'ai vu en Finlande, ralentir la vitesse d'éducation, ralentir la notation, ralentir la manière de parler et se mettre face à face de façon à voir l'autre parler et pas seulement parler devant un écran. Quand on parle devant un écran, on ne prend pas soin et on baragouine à toute allure. Et on barbouille des mots sans prendre la peine de les articuler. L'énonciation est très altérée. Et la manière de parler modifie le sens des mots. C'est probablement pour ça, ça m'est arrivé aussi de dire, mais alors moi c'était avec une jeune journaliste, et j'ai fini par avouer, je ne comprends plus les mots de votre question. Alors elle était vexée, et moi j'étais malheureux, parce que c'est vrai que je la faisais répéter, et elle baragouinait, et je ne comprenais plus les mots qu'elle énonçait, l'énonciation était mauvaise. Donc il faut faire comme en Finlande, prendre son temps, ralentir la parole, ralentir les rythmes scolaires, alors que notre école a tendance au contraire à tout accélérer dans une optique de réussite sociale, et on voit que plus on va vite, moins les résultats scolaires sont bons. Et que, au contraire, quand on ralentit les rythmes scolaires, les résultats scolaires s'améliorent.
Donc, introduire une notion de temps, leur faire répéter ce qu'ils disent en disant plus doucement, sépare les mots de façon à ce que l'autre puisse recevoir ton message. Donc, introduire le temps.
Ralentir.
Voilà.
Il ne faut pas demander aux enfants de ralentir. Les enfants ont toute la vie devant eux et ils sont toujours pressés. Alors que quand on vieillit, on a de moins en moins de vie devant soi, et c'est à ce moment-là qu'on prend son temps, ce qui est le cas de votre serviteur. Mais je pense que non, c'est à nous de ralentir la parole, le temps de jeu, les temps de présence, d'accepter le silence, l'énonciation en ralentissant éduque les enfants qui vont parler plus lentement et on les comprendra mieux. Maintenant, s'ils apprennent plusieurs langues, on sait maintenant que c'est un progrès, à condition de ne pas baragouiner, à condition de ne pas aller au sprint. Donc, il faut que nous, adultes, nous, enseignants, on parle plus lentement, de façon à ce que les jeunes comprennent et nous imitent et apprennent à leur tour à parler lentement.
Donc, analyser en quelque sorte le débit en différents mots, faire comme si on écrivait, de donner à voir et à entendre chaque terme dans son autonomie, dans son sens. Parce que j'ai comme ça des élèves et je leur fais faire des exercices de lecture en leur disant « mais en vedette chaque mot » de façon à ce que chaque mot, comme un acteur, puisse s'exprimer et ainsi toute la phrase sera reçue par la personne qui écoute. Alors finalement, quel est l'avenir de la langue puisque avec la mondialisation, les langues voyagent, se marient avec d'autres langues, nous-mêmes nous voyageons partout, la langue est en pleine croissance. C'est comme si c'était une langue adolescente qui est dans un devenir.
Elle est en pleine évolution. La langue française est composée de tas de sources différentes, allemandes, latines, arabes, et la langue française finit par se structurer, alimenter par des mots issus d'histoires et de rencontres différentes. Donc ça, c'est plutôt un enrichissement. Une langue pétrifiée finit par mourir. On répète la même chose, on comprend plus rien. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez sûrement remarqué que les comédiens articulent et ils vont lentement. Et en articulant, ils associent avec la musique des mots et avec les mimiques du visage. Mmh. Et à ce moment-là, on comprend. Et les comédiens ont cette lenteur et cette énonciation lente, maniérée, théâtralisée, qu'on comprend très facilement. Et un comédien qui irait à toute allure ne serait plus engagé puisque personne ne le comprendrait. Alors donc je pense que ce que vous dites est exactement ça. Il faut théâtraliser la langue et à ce moment-là, même si elle évolue, on continuera, on évoluera aussi et on apprendra des mots nouveaux et on apprendra à parler ensemble, ce qui est le principe de la civilisation.
Alors, jouer sur le mot apaisé, dans le mot apaisé, il y a la paix. La paix sert à humaniser les gens. Mais est-ce que la guerre a un intérêt pour le lien entre les gens? En temps de guerre, on voit que certains endroits de la société s'unissent contre d'autres. Donc, il y a parfois des familles qui se remettent à fusionner bêtement par opposition à une autre famille. Quel est l'intérêt de la guerre pour le lien entre les gens?
Eh bien, la guerre est un processus de civilisation qui détruit une civilisation pour mettre en place une autre civilisation, pour imposer ses propres conceptions de la civilisation par les armes ou par la destruction de la civilisation de l'autre, ce qu'on voit actuellement au Moyen-Orient et en Europe et aussi, on en parle beaucoup moins. On parle des deux guerres qui nous touchent, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine et Gaza, mais il y a actuellement sur la planète 60 guerres bien plus cruelles dont on ne parle jamais. Et alors sur le plan, la civilisation, c'est souvent faite par la guerre. Les frontières sont presque pratiquement toutes le résultat de guerre. Donc à ce moment-là, on s'incorpore, comme le veut le faire Poutine, comme on l'entend au Moyen-Orient, on veut s'emparer de la terre de l'autre et détruire la civilisation de l'autre pour imposer la sienne, ce qui, depuis qu'il y a des archéologues qui s'intéressent à l'histoire de la guerre, la guerre est un processus de civilisation par la destruction de l'autre. La violence est civilisatrice. c'est-à-dire que les frontières sont le résultat de guerre. Mais s'il y a une cartographie des croyances, c'est parce qu'il y a eu une guerre des religions. Si en France, on parle français avec des accents différents qui sont en train de disparaître, ce que je regrette beaucoup, mais s'il y a une guerre, une langue française, c'est parce que la République a interdit de parler le basque, le breton et d'autres langues françaises. Donc c'est la violence qui était civilisatrice. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de continuer comme ça? Parce que le prix de cette civilisation, c'est la fabrique de psychopathes chez les hommes plus que chez les femmes. Quand il y a une guerre, on peut être assuré que pratiquement tous les petits garçons qui ont été formés pour faire la guerre deviendront psychopathes et que les prix Nobel récents sur l'épigenèse montre qu'il y a une transmission biologique du malheur parental. Mmh. Quand les parents, quand les hommes, quand les femmes sont traumatisés, la biologie des enfants est modifiée. Et quand les hommes sont traumatisés par la guerre, et quand un homme rentre de la guerre, il est toujours traumatisé. Mmh. Toujours. C'est-à-dire que la guerre est une fabrique des psychopathes. On fait des frontières, mais on détruit les familles. On impose sa loi, mais on détruit des hommes, des femmes et des enfants. Et on fait comme ça depuis les guerres assyriennes, ou les guerres de cité-État, où quand il n'y avait plus de vivres ou d'eau dans une cité, on galvanisait des hommes bagarreurs et on les envoyait sur la cité voisine voler, piller, violer. On poussait des cris de victoire quand ils rapportaient un butin, des aliments, et c'était la victoire. La violence était donc civilisatrice. Et maintenant, la violence est aggravée par les techniques modernes de la chasse, où on n'est même plus freiné par la vision, la perception de celui, celle qu'on tue. C'est-à-dire que c'est les machines qui tuent à notre place. Il y a un arrêt total de l'empathie. On n'a plus honte de tuer. Et maintenant, la neuro-imagerie photographie comment, dans les guerres modernes, les génocidaires n'ont aucune conscience de leurs crimes. Et si vous ne me croyez pas, relisez les inculpés de Nuremberg. Tous ont plaidé non coupables. C'est-à-dire que là, il y a un processus de langage totalitaire qui, en soumettant les hommes, plus que les femmes, en les soumettant à un langage totalitaire, coupe l'empathie, arrête étonnamment l'empathie et permet de tuer sans aucune culpabilité. C'est ce qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est ce qu'on voit réapparaître aujourd'hui, où c'est pas un homme qui tue un autre homme, c'est un homme qui commande à une machine qui va tuer d'autres hommes. Il n'y a plus aucune émotion, c'est la machine qui tue parce qu'elle obéit aux ordres.
Alors, penchons-nous sur l'idée de l'autre. Lorsqu'il fait défaut, quelqu'un qui meurt, qui manque par exemple à sa famille, lorsque l'autre fait défaut, il y a des moments de solitude humaine très douloureuse, souffrance, traumatisme, décelable, vous dites dans votre livre, même lors d'un examen radiologique.
Ah oui, mais ça, il y a très longtemps qu'on sait ça. Moi, j'ai appris ça en 1965, quand j'étais interne en neurologie à Paris, et les scanners et la neuroimagerie n'existaient pas, mais on faisait des radios de ville, on enlevait le liquide céphalo-rachidien pour mieux faire un contraste, et on voyait sans difficulté. Alors parfois on voyait des hématomes ou des tumeurs cérébrales, dans ce cas-là on pouvait essayer de soigner, mais on voyait surtout ce qu'on appelait des trous dans le cerveau, des atrophies cérébrales, mais on ne savait pas les expliquer. Or, en 1982, il y a eu un prix Nobel, Hubel et Wiesel, qui ont montré que des chatons qui avaient un cache sur l'œil droit, lorsqu'ils mouraient, avaient une atrophie occipitale gauche, la zone de la vision était atrophiée, alors que d'autres chatons qui avaient un cache devant l'œil gauche, quand il mourait, avait une atrophie occipitale droite. C'est la défaillance du milieu qui provoquait l'atrophie de la zone correspondante du cerveau. Et moi, je savais, j'ai appris ça en 64-65. Le prix Nobel de 82 de Hubel et Wiesel l'a confirmé. Ça n'est pas du tout rentré dans la culture parce qu'on continuait à penser, comme le dualisme chrétien, le corps d'un côté, l'âme de l'autre, sans relation. Or, maintenant, on sait que c'est étonnamment faux. Spinoza montre que le corps et l'âme, c'est la même chose. Et même Descartes, que j'ai critiqué pendant un moment, même Descartes comprend que l'âme agit sur le corps et que le corps structure une vision du monde. Donc il faut changer de raisonnement, renoncer au dualisme chrétien, et ça c'est très difficile, parce que ce dualisme a façonné notre culture depuis des milliers d'années. Et beaucoup de gens que j'aime bien, intéressants, intelligents, n'arrivent pas à comprendre ce que je viens de vous proposer.
Alors, les mots de cette langue manipulent l'autre. Par exemple, nous pouvons observer des hommes politiques qui s'expriment, ceux qui savent le mieux parler, qui sont comme des acteurs, qui mettent de la véhémence, de la douceur sur leur visage, de la menace. Ces gens-là manipulent. Donc, les mots et la manipulation de l'autre théâtrale, même politique. Est-ce que l'art est une perversion de la langue?
Alors, non, je ne dirais pas comme ça. Je dirais que, comme vous l'avez dit, que la théâtralisation de la parole, la rhétorique, permet d'influencer le monde mental de l'autre sans donner le moindre argument. C'est uniquement le théâtre qui provoque une impression. L'exemple qu'on cite dans ce cas-là, que je cite dans ce cas, c'est Charlie Chaplin, dans Le Dictateur. Il a très bien compris comment Hitler ne donnait pas d'idées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous avez cherché à lire Mein Kampf. Moi, j'ai essayé, au bout de 50-100 pages, j'ai été obligé de m'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, aucune idée. En revanche, quand Hitler parlait, D'Almeida a expliqué qu'il faisait venir chez lui un chanteur d'opéra qui lui apprenait les gestes à faire, et c'est Charlie Chaplin, dans Le Dictateur, a merveilleusement bien compris ça, où on voit qu'il n'y a aucune idée. Dans Le Dictateur, Charlot fait des mots, on ne peut pas comprendre, et tout le monde est en extase, parce que c'est la rhétorique du langage totalitaire qui permet de déclencher des émotions sans aucune idée. C'est ce qui explique pourquoi, ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure, pourquoi dans le langage totalitaire, lorsqu'on se laisse piéger par un langage totalitaire, on est heureux. On n'a pas besoin que de réfléchir. On perd sa qualité de sa liberté intérieure, comme disait Hannah Arendt. On ne doute plus, on ne réfléchit plus. On est en pleine extase, provoquée par un théâtre des gestes et des mots. Mussolini faisait ça très bien. La plupart des dictateurs font ça très bien. Ils provoquent des transes sans aucune idée. Les slogans, les manifestants, quand ils récitent, scandent, chantent des slogans, n'expriment aucune idée, et tout le monde est en pleine euphorie parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance, de fête délicieuse, et c'est comme ça qu'on arrive à commettre des pogroms en rigolant. Il ne faut pas oublier qu'à Auschwitz, les gardiens, les SS, faisaient la fête. Tous les dimanches, ils faisaient la fête. Il y a un film tragique qui montre que la maison du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, était très belle, appuyée contre les murs d'Auschwitz. On sentait les odeurs des corps brûlés, on entendait les gémissements, les cris ou les coups de feu, et que c'était séparé de 1 mètre ou 2, et les gardiens faisaient la fête. Aucune empathie, aucun décentrement, aucune question, aucun doute. L'euphorie constante, et sa femme aimait tellement cette maison qu'elle a refusé de déménager, et que Rudolf Höss dit « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Arrêt total de l'empathie par la rhétorique sans compenser. Alors, je préfère. Alors, les comédiens jouent très bien, mais lorsqu'ils transmettent un message, ils ont un pouvoir de conviction. Alors que lorsqu'ils font comme Charlie Chaplin dans Le Dictateur, il n'y a aucune idée. Il n'y a que des borborygmes, des gestes ridicules, et tout le monde est en extase.
Alors, comment expliquer, ça vous en avez parlé, et Hannah Arendt aussi, l'absence de culpabilité d'un humain qui atomise l'autre? C'est parce que cet humain qui atomise l'autre a un chef qui lui a dicté une conduite, et lui, c'est confortable pour lui, c'est pas lui, il ne fait qu'obéir. Est-ce que c'est cette bulle anesthésiante de n'avoir pas à penser soi-même et de n'avoir à dire que ce que le dictateur dicte? Est-ce que c'est ça qui explique la paix des gens coupables?
Mais oui, les génocidaires ne se sentent jamais coupables. Que ce soit les Hutus, les Turcs ou les nazis, il n'y a aucune culpabilité. C'est parce que, et non seulement il n'y a aucune culpabilité, mais pendant les guerres ou la préparation à la guerre, le sentiment d'appartenance est euphorique. On est entre copains, on chante, on marche au pas. Quand j'étais praticien, j'ai eu l'occasion d'accompagner des garçons et une fille qui avaient été élevés dans des jeunesses hitlériennes. Et ils me racontaient l'euphorie constante. Il n'y a aucun jugement, aucun doute, aucun recul, aucune possibilité de prendre le recul. Ils étaient piégés par l'euphorie. On peut dire la même chose aussi des communistes ou de certains religieux qui organisent cette euphorie sans jugement, sans doute, sans remise en question. Et en neuro-imagerie, Itzhak Shrid, à Tel Aviv, a bien montré qu'un fanatique, quel que soit son fanatisme, politique, religieux ou économique, quel que soit son fanatisme, ne stimule que ce qu'on appelle le faisceau de la récompense. Il est avec des amis, il est en totale sécurité, il chante, il rigole, il marche au pas. Vous remarquerez que les régimes totalitaires font des défilés que je trouve techniquement incroyablement organisés. Aucun individu, c'est la masse qui défile. Alors ça, tous les régimes totalitaires, ça sert ça très bien. Et c'est effectivement euphorisant pour les gens. Ils perdent toute faculté de jugement. Et celui, comme Anna Arendt, celui, celle qui doute, provoque l'agressivité des siens. Anna Arendt a été haïe par ses proches. Elle a été haïe par les gens qu'elle aimait. Quand les gens qu'elle aimait lui ont dit « Eichmann est un monstre », elle a donc demandé à aller à Jérusalem et elle a dit « Eichmann a fait des actes, des décisions absolument monstrueuses, mais monsieur Eichmann est un petit monsieur qui s'est soumis à des ordres euphorisants parce que les ordres lui permettaient de réaliser sa haine des Juifs. Donc Eichmann a dû condamner à mort je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes avec un stylo, à mort, à mort, à mort, en pleine euphorie, sans aucune culpabilité. Et parce que c'était un petit monsieur qui avait perdu sa faculté de liberté intérieure, sa faculté de jugement. Et Anna Arendt, en disant ça, a été haïe par les gens qu'elle aimait. C'est-à-dire que parce qu'elle remettait en question leur besoin, eux, d'avoir des certitudes. Il fallait que Eichmann, ayant commis des actes incroyablement monstrueux, il fallait que ce soit un monstre. Et le problème, justement, c'est que les nazis qui ont commis un génocide monstrueux appartenaient au pays, au peuple le plus cultivé d'Occident dans les années 30. Et c'est ça qui est difficile à penser, et c'est pour ça qu'Anna Arendt nous invite à penser, et c'est pour ça aussi qu'elle a été vécue par ses proches comme une dissidente.
Boris Cyrulnik, c'est un livre absolument extraordinaire. J'ai donné deux ou trois idées là-dedans, mais il faut le lire, le relire, parce que il y a beaucoup de sagesse, de connaissances, de sciences, de littérature. Et ce livre, Au saccage des petits bonheurs, c'est un vrai bonheur de lecture. Je vous remercie beaucoup. Ça paraît aux éditions Odile Jacob et je souhaite avoir le plaisir de présenter encore une autre fois un livre. Ça fait quelques interviews que nous faisons ensemble autour, au sujet de vos livres, de vos ouvrages.
Mais oui, Madame Chouchala, on se reverra avec plaisir à Strasbourg parce qu'on se connaît depuis longtemps. On se suit depuis longtemps. Je suis ravi par votre invitation.
Merci beaucoup. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.